Vous écoutez, on lit pour vous.
Les trois quarts des Québécois se disent préoccupés par la qualité de l'air, un texte de Florence Morin-Martel, publié le 2 décembre 2025 dans Le Devoir. Les trois quarts des Québécois se disent préoccupés par la qualité de l'air en raison du smog urbain et de la fumée des feux de forêt, selon un nouveau sondage effectué pour le compte de l'Association pour la santé publique du Québec, ASPQ, obtenu par Le Devoir. Et près de 6 personnes sur 10 estiment que le Québec n'en fait pas assez pour corriger le tir. Les avertissements de mauvaise qualité de l'air, émis l'été dernier au Québec, en raison du smog causé par les feux de forêt dans l'Ouest canadien, ont servi d'électrochoc pour bien des citoyens, observe Cyril Frazao, directeur santé et climat à l'ASPQ. Souvent, on croit ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. Dans ce contexte, un sondage a été réalisé en ligne par la firme Léger auprès de 1014 personnes du 19 au 22 septembre dernier. Il révèle qu'une part importante de la population dit désormais ressentir les conséquences des changements climatiques sur sa santé physique. Près de 7 Québécois sur 10 affirment d'ailleurs avoir déjà ressenti les effets des fortes chaleurs sur leur santé au cours des 5 dernières années. Selon M. Frazao, tout le monde devrait se sentir interpellé par les impacts des changements climatiques sur la santé. On a tous une personne à qui l'on est attaché, qui est vulnérable à la qualité de l'air ou aux chaleurs extrêmes, comme les aînés et les enfants. Il rappelle que la crise climatique creuse les inégalités en santé. Les personnes moins nanties, par exemple, vivent souvent dans des quartiers avec peu de végétation, où il est plus difficile qu'ailleurs de se protéger des vagues de chaleur. Des mesures jugées insuffisantes. Selon le sondage, près de 6 répondants sur 10 estiment que le gouvernement Legault n'en fait pas assez pour protéger la qualité de l'air. Les citoyens voient bien que leur municipalité essaie d'en faire davantage, mais elles n'ont pas toujours les moyens nécessaires, note M. Frazao. Pour faire face à cette réalité, l'ASPQ lance un nouveau site destiné aux décideurs municipaux, provinciaux et fédéraux. L'objectif est de les sensibiliser au coût de l'inaction et leur fournir des outils concrets pour prévenir les effets de la chaleur et de la pollution. Cyril Frazao estime qu'une mesure vraiment audacieuse de la part du gouvernement Legault serait d'adopter une politique québécoise de l'air sain. Celle-ci pourrait par exemple imposer des règles plus strictes aux industries en matière de pollution. Il faut oser dire que notre priorité, c'est la santé des Québécois et des Québécoises. La SPQ prévoit maintenant rencontrer les nouvelles équipes municipales, des cabinets ministériels provinciaux et fédéraux, ainsi que des députés de l'opposition pour les inciter à accélérer la cadence en matière de gestes pour l'environnement et la santé. Appelé à réagir, le cabinet du ministre québécois de l'Environnement, Bernard Trinville, dit « très bien comprendre l'inquiétude des Québécois en matière de qualité de l'air ». Il souligne toutefois que depuis 1990, le Québec a fait des progrès et fait partie des meilleurs en Amérique du Nord pour réduire les émissions de GES et améliorer la qualité de l'air. On va continuer dans ce sens parce que notre objectif est un air sain pour tout le monde, tout en gardant un équilibre avec l'économie, dit-il. C'était Les trois quarts des Québécois se disent préoccupés par la qualité de l'air, un texte de Florence Morin-Martel, publié le 2 décembre 2025 dans Le Devoir.
Laurence réécrit sa vie. Une entrevue réalisée par Samuel Rochelle, parue le 27 octobre 2025 dans le magazine Fugue. Roman oscillant entre l'enfance, les débuts de l'âge adulte et les premières années en tant que personne trans épanouie, Portrait de Laurent est une façon pour Laurence Caron-Cé d'intervenir sur ses souvenirs d'enfance et de réécrire sa vie. D'où viens-tu et à quoi ressemble ta pratique artistique? Je viens de Saint-André-de-Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. J'ai différentes pratiques en art visuel et en art littéraire. Cet été, j'ai produit l'exposition « L'été des Marie-Antoinette au Bazar » dans le Vieux-Québec. Je suis aussi prof en art plastique à l'école secondaire de Neuchâtel, avec deux groupes. Tu vis ton existence comme une performance artistique au quotidien. En quoi ça consiste? C'est ma façon d'être. Je suis une personne colorée. Je porte des robes, ce qui crée une onde de choc dans les milieux que je fréquente. Je joue avec les codes de genre pour remettre dans la face des gens que j'ai le droit d'exister ainsi. C'est comme ça qu'est venu le personnage d'Égérie dans mon livre. C'est une version idéalisée de moi-même. Chaque jour, je suis une œuvre qui se renouvelle. En quoi l'identité et l'invisibilisation sociale occupent-elles une grande place dans tes œuvres? Dans L'été des Marie-Antoinette, il y a deux personnages qui reviennent souvent, le visage écrasé et des visages d'enfants. Ça exprime la façon dont se construit l'identité et les parties de soi qu'on refuse de montrer. En littérature, je joue avec les personnages de Laurent et d'Égérie. Une va montrer ce qu'est devenu l'autre. Par exemple, dans une scène, Laurent trouve un tag sur son casier au secondaire qui dit « Crise de fif ». Des années plus tard, Égérie trouve un tag sur une table, dans le local où elle enseigne, qui dit « J'aime Monsieur, Madame Égérie ». En quoi ton troisième livre, Portrait de Laurent, constitue-t-il une cassure thématique avec « La mort habite ici » et « Avril se brisera sur nos eaux »? « La mort habite ici » porte sur la solitude que je vivais dans le Grand Nord, l'absence de l'autre et la langue de l'autre. Dans « Avril se brisera sur nos eaux », j'ai fait les dessins et Sébastien Aymon a écrit de la poésie. Ce sont des dessins réalisés durant une phase de manie de 9 mois. Une manie, c'est quand ton cerveau surchauffe que tu deviens hyper énergique et hyper productif. À un moment donné, le cerveau doit arrêter, mais il n'a pas ralenti pendant 9 mois. Sébastien a écrit ce qu'il vivait pendant que j'étais dans cette phase, entre les murs d'un 3,5 en pleine pandémie. C'était un peu le bordel. Tu écris que Laurent est le seul personnage que tu as joué et que, durant ta jeunesse, tu ne voulais plus être une peau du dimanche qu'on porte pour bien paraître. Veux-tu nous expliquer ce que ça représentait? C'est un peu comme si une personne assignée femme à la naissance se réveillait un matin avec une grosse moustache. Elle ne serait pas nécessairement à l'aise de porter ça. Bref, on se ramasse avec des caractéristiques qu'on n'a pas choisies. On nous assigne une identité et une façon d'être dans lesquelles on n'est pas à l'aise. À un moment donné, j'ai décidé de refuser tout ce qu'on m'avait imposé. Tu évoques des rencontres scolaires qui te donnent le sentiment du devoir accompli. Pourquoi? Ce sont des ateliers que je donne avec le Gris Québec, que je ne nomme pas dans le livre. On rencontre les jeunes dans les écoles pour démystifier les réalités des personnes LGBTQ+. Chaque fois, j'ai l'impression de donner à d'autres ce que j'aurais aimé avoir. J'ai l'impression que Laurent aurait été content de vivre ça. Ça lui aurait évité beaucoup de marde. Sens-tu une régression dans les classes? En atelier, les jeunes sont un peu gênés, car c'est un peu confrontant. Mais dans ma pratique enseignante, je le remarque. Beaucoup de jeunes se permettent des choses qui sont inacceptables, plus qu'avant. J'ai vécu des histoires assez rocambolesques. La régression, je la vois. Par exemple, J'ai vu des jeunes qui refusaient d'utiliser leur nom choisi par peur de représailles du reste de l'école. À quel moment as-tu rêvé de quitter ton patelin? Tout petit, avant le secondaire, parce que vivre l'homosexualité en région dans les années 1990, c'était juste impossible. Ce que je raconte dans le livre, c'est vrai. J'ai vécu des agressions et de la violence psychologique. Au lancement, quelqu'un m'a rappelé qu'un gars m'avait brûlé avec un fer à souder pour le simple plaisir de me voir me tortiller de douleur. Ce sont des choses que je ne souhaite à personne. J'étais en secondaire 1 quand j'ai parlé de suicide pour la première fois. Tu écris être désespérément en amour avec l'amour. Est-ce générateur de souffrance ou vécu sereinement? Maintenant, c'est vécu avec sérénité, parce que je suis marié depuis 8 ans. Jusqu'à la rencontre de mon mari, c'était une quête assez intense. Je voulais tomber en amour et j'en avais une vision très différente. J'ai été élevé entre les mains d'un père catho et d'une mère qui n'avait pas grand-chose à dire. Ça m'a donné une vision de l'amour qui devait être grandiloquente. Aujourd'hui, je me rends compte que l'amour réside bien plus dans les petites choses du quotidien et dans ce qu'on bâtit ensemble. Info, portrait de Laurent, de Laurence Caroncé aux éditions Amac, 168 pages. C'était « Laurence réécrit sa vie ». Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 27 octobre 2025 dans le magazine Fugue.
L'intelligence artificielle à la rescousse de la productivité des entreprises. Un texte de Camille Carpentier publié le 6 janvier 2025 sur le site de Radio-Canada. Alors que l'intelligence artificielle, IA, s'impose de plus en plus dans le quotidien des Canadiens, une majorité d'entreprises au pays sont encore réticentes à l'idée d'y avoir recours. Celles qui ont décidé de l'adopter constatent des bénéfices sur la productivité. Cependant, cette technologie dispendieuse demeure inaccessible pour bien des gens d'affaires. Laurie Larochelle connaît l'usine de Simard, cuisine et salle de bain à Saint-Tite-des-Caps comme le fond de sa poche. La directrice générale nous fait visiter les différentes stations de travail où des employés s'affairent autour de machines dernier cri qui donneront vie à des armoires ou à des comptoirs. Néanmoins, aux yeux de cette chef d'entreprise manufacturière, la technologie la plus révolutionnaire de l'usine se trouve dans son bureau. Depuis quelques mois, elle utilise l'IA pour planifier la production. Le logiciel en question est toutefois loin de ressembler au populaire robot conversationnel généré par l'intelligence artificielle générative. Sur son écran d'ordinateur, Laurie Larochelle peut apercevoir d'un coup d'œil la quantité de travail que ses équipes devront abattre dans les prochains mois. Si une surcharge s'annonce pour une station de travail, il suffit d'un clic pour demander à l'intelligence artificielle d'optimiser la séquence d'ouvrage et ainsi éviter de devoir payer des heures supplémentaires. Citation. Quand on a commencé à parler de l'intelligence artificielle, on s'est tout de suite posé la question « Qu'est-ce que ça peut faire pour nous ?» Fin de citation. Pour l'entreprise de la Côte-de-Beaupré, la réponse s'est imposée d'elle-même. Avec un carnet de commandes qui ne cesse de s'allonger, Simard avait besoin d'un outil qui allait l'aider à gérer sa croissance fulgurante. Citation. Le chiffre d'affaires a doublé dans les 5 dernières années, explique Laurie Larochelle. On vise de doubler encore dans les 5 prochaines années, donc c'était important pour nous d'avoir les outils pour bien soutenir nos employés dans cette croissance. Fin de citation. L'usine livre de 5 à 7 projets par jour. Entre les dates prévues de réception des matières premières, les congés des employés et les travaux déjà en cours, il devenait de plus en plus complexe de garantir avec précision une date de livraison aux clients. Le logiciel, lui, est capable de planifier la séquence des travaux en quelques secondes en tenant compte d'une 40aine de facteurs. Citation. Ça prenait des gens qui avaient des 10aines d'années d'expérience dans le domaine, mentionne Laurie Larochelle. En ayant le logiciel qui vient imiter plein de réflexions, Ça permet d'avoir des ressources qui sont relativement juniors et qui vont être capables de prendre, 90 % du temps, d'aussi bonnes décisions qu'une personne d'expérience. Fin de citation. Citation. Les décisions prises sont au-delà de ce que le cerveau humain est capable de faire. C'est très positif pour nous, pour la croissance. Fin de citation. La lente intégration de l'IA en entreprise. C'est Vuban, une entreprise de Québec, qui a conçu cet outil sur mesure pour Simard Cuisine et Salle de bain. Citation. On déploie des solutions qui incluent l'intelligence artificielle dans le but d'automatiser ou de transformer les entreprises, explique le vice-président exécutif de Vuban, Hugues Foltz. On va enlever des mains des humains la planification. Ce qu'on sait très mal faire, c'est la gestion de plusieurs variables ou contraintes. Fin de citation. Au cours des 8 dernières années, durant lesquelles elle s'est spécialisée en intelligence artificielle, Vuban a travaillé avec près de 400 entreprises, la plupart manufacturières. Citation. Le manufacturier s'est réveillé, je dirais, et a intégré l'IA de façon un peu plus massive il y a déjà presque 10 ans de ça. Ellipse. Les autres secteurs d'activité, beaucoup d'autres domaines et d'autres industries viennent de se réveiller. Certaines se réveillent à peine. Fin de citation. Un récent rapport de Statistique Canada confirme que l'IA est encore adoptée par bien peu d'entreprises au pays. Au troisième trimestre de 2025, seuls 14,5 % des entreprises avaient l'intention d'utiliser l'IA au cours de la prochaine année. Cette proportion s'élevait à 13,1 % au Québec et à 16,5 % en Ontario. Citation. On n'est pas du tout en avance en intégration des nouvelles technologies, dont l'IA, affirme Hugues Foltz. On n'a jamais vraiment eu cet appétit-là. Ellipse. On n'a pas une curiosité naturelle, autant les Québécois que les Canadiens, aux nouvelles technologies. Fin de citation. Statistique Canada note également que les secteurs qui utilisent le plus l'IA présentement sont la finance, les assurances, l'industrie de l'information et l'industrie culturelle. L'agriculture, la foresterie, la restauration, la construction et le transport sont parmi ceux qui s'y intéressent le moins. Même s'il remarque depuis 2 ans un intérêt grandissant des entreprises pour l'IA, Hugues Foltz croit que le Canada et le Québec ont un grand retard à rattraper par rapport aux marchés internationaux. Il croit que cette technologie est devenue presque incontournable pour améliorer la productivité au pays. Citation. Cette résistance-là, ou ce manque de curiosité-là, a ralenti beaucoup d'entreprises et aujourd'hui, on est à une étape où nos entreprises sont un peu au pied du mur. Elles n'ont plus le choix d'y aller. Puis, c'est un peu une course contre la montre à savoir quelles sont les entreprises qui vont traverser le fameux pont et intégrer l'IA à temps pour survivre. Fin de citation. Le Conseil du patronat du Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, notamment, craignent que ce retard ait des répercussions négatives sur l'économie. Une adoption encore complexe. Plusieurs obstacles freinent l'intégration des solutions d'intelligence artificielle en entreprise, à commencer par la méconnaissance de cette technologie. Citation. Le manque de compréhension, juste comment ça fonctionne, c'est parfois suffisant pour ralentir l'entrepreneur ou le gestionnaire. Fin de citation, note Hugues Foltz. Le récent rapport de Statistique Canada démontre que 11 % des entreprises sondées manquaient de connaissances sur les capacités de l'IA. Une proportion de 78 % juge que la technologie n'est pas pertinente pour la production des biens ou des services qu'elles offrent. Le coût d'implantation peut aussi être une barrière, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Dans le cas de Simard Cuisine et Salle de bain, la création du logiciel a coûté entre 500 000 et 1 million de dollars et elle a requis environ 3 ans de travail. Laurie La Rochelle s'attend à un rendement de l'investissement d'ici 3 ans. Citation. Pour nous, c'est un des plus gros investissements qu'on a fait. Ça nous a coûté plus cher que nos machines. C'est considérable. Fin de citation, précise la directrice générale qui croyait au projet malgré le risque financier qu'il comportait. Dans un rapport publié en novembre dernier, la firme KPMG a sondé plus de 700 grandes entreprises canadiennes sur leur utilisation de l'IA. Le tiers des répondants qui ont adopté la technologie ont indiqué prévoir rentabiliser leur investissement en un an. Deux tiers d'entre eux estiment que cela prendra jusqu'à 5 ans. Citation. C'est une technologie parmi d'autres. Si ce n'est pas rentable pour une entreprise d'en faire, n'en faites pas. Fin de citation, recommande Hugues Foltz. Il croit également que les entrepreneurs manquent de ressources pour les aider à naviguer dans cette nouvelle ère technologique. Citation. Des Vauban, il n'y en a pas tant que ça, indique-t-il. Il manque probablement d'entreprises pour bien épauler, accompagner les entreprises dans l'intégration de l'IA dans leur façon de faire. Fin de citation. Des formations destinées aux entreprises et à leurs employés voient pourtant le jour. Le centre de formation AFI-U, École des organisations, qui a des campus à Montréal et Québec, offre aux organisations un programme leur permettant d'adopter leur façon de faire à cette nouvelle réalité. Citation. L'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une technologie, c'est vraiment un changement culturel qui vient transformer les organisations. Ellipse. Transformer la façon qu'on a de pratiquer un métier. Fin de citation, affirme Marie-Pierre Abbas-Gérard, leader du campus IA d'AFI-U. Elle estime que tous les types d'entreprises peuvent y trouver leur compte. Citation. Ne pas utiliser l'IA, c'est malheureusement garantir que l'entreprise, dans 2, 5, 10 ans, ne sera plus pérenne. La question ne se pose plus. Fin de citation. Même si elle ne peut pas encore mesurer l'incidence à long terme qu'aura l'intelligence artificielle sur la productivité de Simard Cuisine et Salle de bain, Laurie La Rochelle en voit déjà les bénéfices. La technologie, tient-elle à préciser, ne sert pas à remplacer des employés. Citation. Ça ne vient pas remplacer l'humain, ça vient l'augmenter. Fin de citation, assure-t-elle. D'autres projets en IA sont d'ailleurs dans les cartons pour l'entreprise charlevoisienne. La directrice générale invite ses pairs à s'intéresser à ce que l'IA peut faire pour eux. C'était l'intelligence artificielle à la rescousse de la productivité des entreprises. Un texte de Camille Carpentier, publié le 6 janvier 2025 sur le site de Radio-Canada.
Comment arrêter un antidépresseur? Une question toujours dure à trancher. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 11 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles. Que faire quand un patient sous antidépresseur va mieux? Longtemps négligée en France, la question est aujourd'hui perçue comme un enjeu médical majeur et les recherches s'accumulent sur la manière d'arrêter un traitement. Mais les réponses restent incertaines et difficiles à appliquer. Une vaste étude publiée dans le Lancet Psychiatry apporte enfin des réponses d'une solidité sans précédent grâce à l'ampleur des données recueillies. Dès que l'on change ou réduit un antidépresseur, c'est une source d'angoisse pour la personne concernée, rapporte à l'AFP Christine Villelongue, coprésidente de l'association France Dépression. Or, il n'y a aucun cadre, très souvent, quand on arrête, il n'y a pas de suivi. Après plusieurs décennies d'usage, les médecins savent très bien dans quelles conditions prescrire un antidépresseur. Mais, quand le patient va mieux, les incertitudes se multiplient. Faut-il poursuivre le traitement tel quel, avec des effets secondaires qui peuvent s'accumuler à long terme? Le continuer à faible dose? L'arrêter? Au risque d'une rechute ou d'un sevrage difficile, et, si oui, soudainement ou progressivement. Ces questionnements font depuis plusieurs années leur chemin chez les psychiatres avec l'émergence d'un concept, la déprescription, qui incarne l'importance de réfléchir à l'arrêt d'un antidépresseur, une prise de conscience qui n'a longtemps rien eu d'évident. Tout au long de mon internat, achevé pourtant très récemment, ce sujet n'a jamais été abordé dans l'enseignement, explique à l'AFP la psychiatre française Meva Mousseau, présidente de l'Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues. Lorsque les patients expriment le souhait de réduire leur traitement, cela est encore trop souvent interprété par le corps médical comme un déni de leurs troubles. poursuit Madame Mousseau. Norvège et Pays-Bas plus avancés. Elle note que d'autres pays sont plus avancés que la France, comme la Norvège, où des consultations dédiées à la déprescription sont proposées, ou les Pays-Bas, où des microdoses d'antidépresseurs sont autorisées afin de permettre une réduction très progressive. Mais est-ce réellement la meilleure stratégie? Comme en sont convaincus nombre de psychiatres, l'idée semble intuitive, mais les spécialistes restent confrontés à un manque criant de données probantes sur la conduite à tenir. Les auteurs de l'étude publiée dans The Lancet, amenés par les chercheurs italiens Giovanni Ostusi et Deborah Zaccoletti, ont évalué l'ensemble des études déjà menées pour comparer les différentes options quand un patient dépressif va mieux, soit plus de 70 essais cliniques portant sur quelque 17 000 personnes. Résultat mis en avant par les chercheurs. Un patient chez qui l'on arrête progressivement un antidépresseur n'a pas plus de risque de rechute que s'il poursuit son traitement, mais à condition de disposer d'un soutien psychologique. La pire option reste, dans tous les cas, un arrêt brutal du médicament. Même si les antidépresseurs sont efficaces pour empêcher les rechutes dépressives, rien n'oblige à en faire un traitement à long terme pour tout le monde, en conclut Mme Zaccoletti, citée dans un communiqué du Lancet. Mais plusieurs spécialistes appellent à la prudence. Il pointe par exemple qu'une diminution progressive sans soutien psychologique n'apparaît pas forcément plus sûre qu'un arrêt soudain. Même quand on diminue très progressivement un antidépresseur, l'arrêt reste associé à un risque de rechute, prévient le psychiatre allemand Jonathan Hensler dans un commentaire également publié par le Lancet Psychiatry. Selon lui, les résultats montrent surtout le bénéfice supplémentaire apporté par une psychothérapie. Or, pour de nombreux patients, un tel soutien n'est pas une option réaliste, comme le souligne Mme Villong, insistant sur la carence de soignants en France. Les conclusions du Lancet Psychiatry s'inscrivent dans un monde idéal, mais la réalité du terrain, ce n'est pas ça, juge-t-elle. C'était « Comment arrêter un antidépresseur ?» Une question toujours dure à trancher. Un texte de l'Agence France-Presse publié le 11 décembre 2025 sur le site de TVA Nouvelles.